les débuts de la Troisième République. Après la défaite de Sedan et la chute de l'Empire, la République fut proclamée le 4 septembre 1870 à l'initiative de quelques députés de Paris. Le gouvernement provisoire, hâtivement constitué, tenta de négocier avec la Prusse. Il paraissait évident à beaucoup que cette guerre était celle de Napoléon III. Lui parti, les Prussiens n'avaient aucune raison de continuer. Il fallut bien vite déchanter. Bismarck, le chancelier de fer, avait voulu la guerre. Sentant la victoire toute proche, il imposa à la France des conditions de paix si dures qu'elles parurent inacceptables. On décida de poursuivre la lutte. Dès la fin du mois de septembre, les armées allemandes encerclaient Paris, où le gouvernement provisoire avait voulu rester par solidarité. C'était un geste généreux mais maladroit qui associait toute la France au destin de la capitale. Si elle était prise, tout s'écroulerait. Dans le gouvernement provisoire, certains étaient partisans de la lutte à outrance à partir de la province. Le plus fougueux était le jeune ministre de l'Intérieur, Léon Gambetta. Avec l'accord du gouvernement, il réussit à quitter en ballon Paris assiégé. Il se rendit à Tours, où il organisa la défense. Léon Gambetta avait alors 32 ans. Brillant avocat, républicain, il avait été un adversaire acharné du Second Empire. Il était né à Cahors et avait une fougue toute méridionale. Son tempérament de lutteur, sa parole enflammée, ranimèrent les énergies.
Il faut mettre en œuvre toutes nos ressources, qui sont immenses, secouer la torpeur dans nos campagnes, multiplier la guerre de partisans et inaugurer la guerre nationale.
Il réussit à réorganiser l'armée en levant 600 000 soldats. Doté de pouvoirs absolus, il faisait figure de dictateur. Certains hommes politiques désavouaient sa conduite. C'était le cas de Thiers.
Cette politique de fou furieux va jeter la France dans les plus grands dangers.
Mais ses efforts acharnés furent vains. L'armée envoyée au secours de Paris ne put jamais atteindre son but, tandis qu'à Metz, le général Bazaine préférait se rendre avec toute son armée plutôt que de combattre pour un gouvernement républicain. La situation de la capitale devint désespérée. L'hiver, particulièrement dur, était là. Les Parisiens, en grand nombre, moururent de faim et de froid.
Les provisions s'épuisaient de plus en plus et le peu qu'il en restait était inabordable à l'immense majorité de la population. En novembre, une voiture de boucherie affichait « L'héroïque Paris brave les Prussiens, il ne sera jamais vaincu par la famine. Quand il aura mangé la race chevaline, il mangera ses rats, ses chats et ses chiens. » Le fait est que la race des matous a fort diminué pendant le siège. Les chiens eux-mêmes ont largement payé leur tribut. Depuis le 15 janvier, la ration de pain est réduite à 300 grammes. La ration de viande de cheval n'est plus que de 30 grammes depuis le 15 décembre. La mortalité a plus que triplé. Si la situation avait duré 15 jours de plus, on aurait vu les gens tomber dans la rue comme des mouches.
Il fallut négocier. Le 28 janvier, ce fut la capitulation de Paris et un armistice général malgré les protestations vigoureuses de Gambetta.